Bienvenue officiellement au premier épisode de La Causeuse avec un nouveau thème.
Eh ouais!
Ben, nous autres, on l'a pas entendu parce qu'on l'a pas encore choisi, mais quand vous allez l'entendre, là, il va être là.
Non, mais c'est pas vrai, il est choisi.
Oui, on sait c'est quoi, mais il est pas là. On n'a pas vécu la pleine expérience.
Ouais, c'est ça.
On s'en reprend dans deux semaines.
Ben oui. Bon. Bye, là!
Mais cette semaine, nous autres, on a décidé qu'on voulait professer notre amour pour les jeux un peu obscurs qu'il y a sur Game Boy Advance, sans faire une liste d'aucune façon, juste pour la plateforme qu'est le Game Boy Advance, parce que, tu sais, probablement, ben, à cause de notre âge, là, on a 32 ans, respectivement. Puis bref, on dirait que c'est comme, tu sais, les époques avant ça, mettons, si on parle du PlayStation 1, même si on parle du SNES, ce sont des plateformes qu'on a connues, qu'on a eues, sauf que t'as pas d'argent. T'sais, t'as pas de disposable income. Hey,
PS1, mon gars, là, je me rappelle avoir économisé pendant au moins genre deux fêtes puis un Noël pour me lâcher. Là.
Ben, c'est ça. Puis après ça, t'arrives la génération suivante. Là, t'es aux études. Fait que là, tu peux fin d'avoir des jeux, sauf que t'es dans le jus, t'es dans sauce, stick. Puis, fait que console portable, cool. Puis ben, peut-être un aperçu des choses à venir, mais tu finis par aimer un certain style de jeu qui est plus classique. On sentait déjà le changement, évidemment, rendu à cette époque-là, parce qu'on parle, face au Game Boy Advance, on parle du GameCube, on parle du PlayStation 2, on parle de cette génération-là, puis c'est quasiment dur de se mettre ça en tête quand on y pense, tu sais, de dire « Wow, ce qu'on avait à la maison, c'est des jeux qui sont encore bien jouables aujourd'hui, ou qu'on voit des HD remakes qui n'ont pas grand-chose à faire. » Puis, à l'opposé, ces consoles portables, c'était essentiellement un Super Nintendo portable. Puis c'est ça qui coexistait, puis c'était l'affaire la plus normale du monde.
Mais moi, c'est ce qui m'a fait triper de cette console-là. C'est une des consoles portables que j'ai vraiment eu pour la console. T'sais. Avant ça, j'ai eu un Game Boy pour jouer à Pokémon, pour vrai.
Ah, je te crois.
That's it. Puis le Game Boy Advance, ben, je suis un fan de Super NES, on le sait. Là. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais coudonc, c'est un Super NES, mais je peux mettre dans mes poches quand je prends le métro.
puis je me rappelle.
Puis là, je parle du vrai métro parce que j'étais à l'université là, à Montréal.
Oui, pas ton gag peu subtil de l'épisode 2.
Voilà.
Puis, mais il y avait, moi aussi, j'avais déjà verbalisé, déjà à ce moment-là, tu sais, on s'entend là pourtant, là, genre.
Ouais, tu parlais à peine.
Exact, c'est ça, moi, jusqu'à 20 ans, là, les phrases complètes, c'était bien overrated. Puis, j'avais déjà verbalisé de dire, il me semble que ça change. Ce qu'on joue, c'est plus ce qu'on jouait. Puis, je sais pas si je suis si à l'aise que ça avec ça. Je sais que c'est du même, c'est un peu weird, mais est-ce que c'est ça que je veux gamer? T'sais? Il y a des super belles expériences. T'sais, j'ai embarqué comme un malade dans des trucs comme Metal Gear Solid, mais le tournant vers les shooters, puis tout ça, puis j'étais comme, OK, j'ai du fun avec ça, mais il est où le jeu 2D? Parce qu'on l'avait complètement abandonné. C'est pas comme aujourd'hui où est-ce qu'il y a du contenu 2D disponible en fou grâce aux indies, puis même certains majors se permettent de sortir des jeux plus classiques. Parce qu'on était comme, ah ben ça c'est le futur, à ça on a le 3D, on n'a plus besoin du 2D, on dirait que c'était comme ça la réaction.
Mais c'était un peu la progression, tu sais, parce que là on a essayé d'avoir un petit peu d'effet de 3D, puis là hey, on a du 3D, fait que là c'est réaliste, on aime ça, on veut ça. Mm-hmm. Mais moi aussi j'étais un peu comme toi, j'étais comme, ben moi les jeux qui m'ont fait triper, c'est les jeux de Super NES, puis hey.
Puis on voyait aussi tout plein de franchises se péter la gueule au passage 3D. Là. Ouais. Castlevania, c'était un massacre. Puis tu sais, ça c'est un des beaux exemples. Là. En PlayStation 1, t'avais Symphony of the Night, considéré par plusieurs comme le meilleur Castlevania, puis t'arrives au 64 puis t'as un jeu qui a pas fait l'unanimité, mettons, pour être poli là. Fait que, puis après ça t'arrives au PlayStation 2, puis là t'as les Castlevania Lament of Innocence puis Curse of Darkness qui sont fine, genre qui sont comme des God of War de pauvres ou des Devil May Cry de pauvres. Puis sur le GBA t'arrives avec certains des meilleurs Castlevania qui ont fait.
Oui, parce que les limitations de la console faisaient qu'ils revenaient sur 2D.
Ça, puis justement, c'est un peu plus de ça qu'on voulait parler.
Oui.
Quel segue involontaire incroyable. Malgré que le jeu n'est pas sûr qu'on veut parler, là, mais l'idée que à cette époque-là, à cause de l'écart technologique, il y a beaucoup des jeux de Game Boy Advance. Quand on faisait, mettons, t'avais une sortie majeure sur une plateforme, sur les plateformes de salon. Là. Mettons, on parle, tu sortais Need for Speed Underground sur PlayStation.
Sur Windows, j'ai beaucoup joué sur Windows.
Sur Windows. Bref, sur les plateformes modernes. Puis là, c'est comme, ben, il y a un gros engouement pour le jeu. Fait que c'est sûr qu'ils vont vouloir faire une version pour les consoles portables. Sauf que tu peux pas. porter l'expérience. La console est juste pas là.
L'écran puis, à 2 pouces de large. Là,
fait que t'arrives avec une expérience simplifiée. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que depuis plusieurs années, il y a vraiment une folie pour ce qu'on appelle les D-makes. Donc, à l'opposé d'un remake, c'est de prendre un jeu puis de le baisser technologiquement à l'image d'une ancienne plateforme. Sauf que, fuck, au début des années 2000, c'était l'industrie qui était comme ça.
Ouais, puis c'était comme leur façon d'aller chercher le plus de consoles possible. Là.
Bingo, puis c'est que ce qui est devenu une espèce de lettre d'amour au rétro ou une espèce de licence artistique, c'était un exercice commercial. Puis, dans certains cas, c'était un exercice de game design très, très valide. Parce que oui, t'avais des hosties de cash-in pourries. La plupart, en fait, de ces jeux-là qui sortaient sur deux plateformes qui avaient une version GBA, s'ils pouvaient pas reproduire l'expérience, ben passe au suivant. Là, c'était un jeu de marde. Là. Sauf que, quand t'en avais qui disait, tu sais, qui remontait à l'essentiel, dire « OK, ce jeu-là, c'est quoi l'expérience essentielle? Ouais. Qu'est-ce que les joueurs obtiennent de ce jeu-là? Puis comment est-ce qu'on peut recréer le même jeu, mais si c'était à quelque chose qui ressemble au Super Nintendo, par exemple? » Puis
ouais, on se concentre sur l'histoire, sur l'expérience de jeu, pas sur essayer de faire la même affaire, mais qu'on peut pas, fait qu'on va essayer de le patenter. Là.
Fait que bref, c'était des D-makes, mais pas juste pour se trouver cute. C'était des vrais produits.
Ouais.
Puis, justement, ben, j'en ai relevé quelques-uns parmi ceux qui ont été les mieux classés. En fait, j'ai sorti une liste.
Puis tu m'en parlais avant qu'on commence, puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être ajoutés sur ma liste de jeux de Game Boy Advance à essayer de trouver.
Ah oui, puis ça vaut la peine. Il y en a quand même qui ont gagné de la valeur, parce que justement, c'est des jeux qui étaient souvent ignorés, parce que c'était des ports, là. Tu sais, j'aime pas le mot port vu que c'était pas direct, là, mais c'était des versions portables.
Ouais, puis les gens vont faire comme, ben là, j'achèterai pas cette version-là, c'est toute lettre, puis pixelisée, moi, l'acheter sur mon PS2.
Bon, je vais tricher un petit peu dans cette liste-là, là, par contre, mais c'est que souvent, sans que ce soit une version adaptée directement, c'est qu'il y avait un jeu qui sortait sur une plateforme majeure, puis il disait, OK, faut en faire une version portable. Fait que souvent, il y avait quand même la présence d'esprit de pas en faire le même jeu, mais c'est le même exercice. Ouais. C'est de créer une version plus limité de ces jeux-là.
Qui va suivre, qui va sortir en même temps.
C'est ouais. Ça, puis souvent, justement, il y en a qui avaient la clairvoyance de faire des produits qui ont été beaucoup supérieurs aux versions de consoles. La liste, il n'y a aucun ordre en particulier. C'est juste l'ordre qui me sont apparus pendant mes recherches. Un que moi, j'adorais, personnellement, surtout comparé à la version console, Star Wars épisode 3, Revenge of the Sith. Autant que la version console est un jeu complètement non remarquable, mais
la version cinéma aussi, je pense, est une version
assez peu remarquable, effectivement. Le jeu était un beat'em up 3D. C'était correct. C'était inoffensif comme jeu. Mais quand on arrive sur la version Game Boy Advance et DS, en fait, c'est un Final Fight. C'est un beat'em up 2D. Quand même intéressant. C'était pas très, très challenging. C'était pas très, très difficile. Mais celui-là, ça a été... Tu sais, l'exercice était assez simple. On va le transposer en 2D. On strip l'histoire. Mais le look est très bien choisi. C'est clairement pas un port direct. Puis, t'en veux un jeu qui vaut rien, là?
Oui, parce que
c'est 3 piastres.
Il est partout, là.
En boîte, c'est 10 piastres, à peu près.
Parce que il me semble que je l'ai vu, genre, à peu près 1000 fois en regardant des jeux dans des boîtes, dans des marchés aux puces. Puis là, tu me dis que hey, c'est un bon jeu.
Ouais. C'est un jeu décent. Pour le prix, ça vaut largement la peine. Puis même plus que la version DS, étrangement. Parce que la version DS rajoute des petits tableaux genre en 3D de vol de vaisseau. Puis ça sert à rien. Là. Ça ralentit le gameplay. Là. Mais
mettons, le point positif, c'est que la chip audio du Game Boy Advance permet pas d'entendre la voix de mauvais acteur de
Hayden Christensen.
Merci.
Hayden Christensen.
Fait que bonus.
Hein? Fait que c'est ça, c'est vraiment épuré. C'est une coupe de tableau. Ça résume l'histoire dans ses grandes lignes. Mais on focus sur le fait qu'on peut faire un bon beat'em up. Puis c'est cool de pouvoir genre snapper un droïde. Puis de force push, donc de pousser avec la force les morceaux d'en face des autres ennemis.
Nice.
Puis il y a vraiment quand même l'équilibre des pouvoirs que Obi-Wan a versus ceux de Anakin. Fait que c'est un super beau petit beat'em up qui ne vaut absolument rien sur le marché.
Je le vois tout le temps. Fait que je pense qu'il va tomber dans la liste de.
Et voilà,
d'achat à acquérir. À un moment donné, comment tomber dessus dans une boîte.
Deuxième titre que je relève, je triche un peu. En fait, je triche beaucoup. Mais bon, il est apparu dans la liste puis il était bien classé. Puis c'est un jeu que j'aime. James Bond 007 sur Game Boy noir et blanc classique. Une des dernières sorties du vieux Game Boy. Il voulait profiter évidemment du buzz de GoldenEye.
Ouais.
Il est quand même sorti relativement plus tard, mais GoldenEye a tellement eu une durée de vie longue que le jeu est sorti encore pertinent. C'est un Zelda-like. C'est un jeu action-adventure. Ça aussi, ça vaut pas grand-chose. C'est un jeu d'une dizaine de piastres en noir et blanc qui pousse... Honnêtement, il drive le Game Boy assez loin là, parce que quand tu changes de tableau, t'entends la musique comme un petit peu s'étouffer entre chaque changement d'écran. Là. Mais c'est un action-adventure à la Zelda. Donc, que tu joues James Bond avec un petit peu plus d'interaction avec des NPC qu'on voit dans Zelda souvent, et plus linéaire, là, honnêtement. Mais quel beau petit jeu.
Puis raconte-tu l'histoire d'un
Non, il y a son histoire unique. Il y a une histoire unique avec ses vilains uniques. On réutilise certains personnages qui ont été connus, là. Mais c'est vraiment cool comme formule. Puis c'est ça, parce que c'est impossible de refaire GoldenEye sur une plateforme aussi limitée. Fait qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben,
c'est déjà que la version de 64 de GoldenEye...
Oui, c'est ça, exact. C'était déjà, ça stretchait au maximum.
Mettons que ouais, ça tirait fort sur les possibilités.
Le nombre d'images par seconde à 4 joueurs était un petit peu ridicule. Mais c'est ça, fait qu'ils ont dit, OK, c'est quoi James Bond? Ils n'ont pas dit c'est quoi GoldenEye. Fait qu'ils ont changé le nom, puis ils ont pris le côté aventure d'un espion. Fait que c'est un très, très beau petit jeu. Je vais en prendre un que tu pourrais peut-être plus connaître dans le tas, ou en moins connaître plus la franchise. Baldur's Gate Dark Alliance.
Ben oui.
Qui c'était un des bijoux, là. C'était Diablo sur console avant Diablo PS2, sur console.
PS2, je pense. Hein?
PS2. Ouais. PS2, Xbox 1, ouais. Bon, tout ça. Puis en fait, je vais le grouper avec un autre. Lord of the Rings, The Two Towers, que si on se rappelle des versions console, c'était une espèce de beat'em up avec une petite progression de...
J'ai pas joué beaucoup, fait okay. Que je t'écoute.
Bon, ben c'est ça. C'est un jeu assez linéaire, mais qu'on a quand même une progression de niveau à force de... péter des ennemis, etc. Mais ça focusait beaucoup sur être très, très beau à cette époque-là. Ils voulaient vraiment reproduire l'univers visuel de ces films-là. Mais évidemment, ça marche pas. Ça marche pas sur Game Boy Advance. Ben non. Fait que c'est une espèce de Diablo-like. On va plus à une vue isométrique, comme Dark Alliance fait. Puis Dark Alliance, même en essayant de bien recréer le Dark Alliance original, tu tombes à un joueur, tu t'enlèves le 3D, fait que tu tombes avec une vue isométrique. Ça rappelle rapidement Diablo, beaucoup plus que le faisaient les versions console. Puis, tu tombes avec un beau petit Christie d'action RPG portable, tu sais, sans prétention. Il arrive comme super, comme bah, c'était une version portable qui est sortie beaucoup plus tard de Dark Alliance. Puis, les deux Lord of the Rings, d'ailleurs, le suivant aussi, est sur la même formule.
Ouais.
Puis, c'est des petits Diablo-like super chouettes qui valent à peu près rien.
Mais non, c'est ce genre de jeu qui est comme en quantité industrielle parce que. Ça s'est quand même vendu probablement pas mal, étant donné des films qui ont eu une grosse popularité, puis qui se ramassent dans le fond d'une boîte. Là.
C'est ça. Ben encore une fois, si on pense toujours à l'idée du D-Make, on prend un jeu qui a une mécanique, qui a un fil en particulier, puis c'est comme, OK, comment je le réduis? Ben, Dark Alliance, c'est comme, ben là, clairement, on a voulu faire Diablo sa sauce. Là. C'est ça qu'on a voulu faire. Fait que revenons plus vers Diablo. Puis en y donnant un contrôle direct, ben ça vient chercher un petit peu Gauntlet. Là. Ça vient chercher un petit peu le fil arcade. Mais avec les quêtes, avec les shops, les équipements, puis toute la patente qui fait que t'obtiens une expérience semblable de jeu. T'sais. C'est probablement un des plus proches, en fait, dans la liste. Là. Ensuite, un de mes petits chouchous, comme que j'ai nommé un petit peu tantôt, Need for Speed Underground 2. En fait, ils ont fait les deux, mais la version 2 était plus impressionnante parce qu'elle est sortie excessivement tard dans la vie du Game Boy Advance. Fait qu'il y avait une version DS aussi. Mais c'est fou le 3D que le Game Boy Advance est capable de faire. Là. Il y a une couple de jeux là, qui sont vraiment, vraiment impressionnants, puis ça en est un. T'as un bon frame rate, là. Non, c'est pas du 60 images par seconde, là. Mais c'est pas choppy. Puis c'est un petit jeu qui est tout en 3D. C'est des charts tout en 3D avec. Il n'y a pas de. C'est pas un monde ouvert, là. C'est pas un open world Need for Speed Underground 2. Mais ils ont quand même pris le soin de te laisser modifier tes chars. Puis c'est ça le plaisir d'Underground.
Ben oui.
C'est pour ça que tout le monde a trippé sur ces jeux-là. Oui. C'était comme change tes couleurs, mets des néons, mets des stickers, des vinyles, puis tout. Puis tu peux tout faire ça, c'est ton petit modèle 3D full rudimentaire, change ta couleur, t'es vite teinté, cool. T'es cossin.
Fait que c'est vraiment un genre de D-Make là, dans la pure définition du terme. Là.
Ah, mais tu le présenterais comme dans une affaire de D-Make. Ah, Jack, c'est genre Need for Speed Underground. S'il était au GBA, ben ouais, c'est ça.
C'est ça.
Exactement ça. Vraiment, vraiment low res. Ton char est probablement fait avec 36 polygones. Mais tout est là. Le gameplay fonctionne bien. T'as même la plupart des modes de jeu, les courses, les drifts, puis tout ça.
Ouais, ouais, quand même.
Fait que c'est.
Hey, moi, tu me parles de ça, ça me ramène vraiment. J'ai tellement joué à ce jeu-là sur l'ordi. Moi
aussi. L'un ou le deux que t'as joué plus?
Je sais plus. Ouais. Les deux, genre.
Ben, notre ami Hugues est un maniaque de char. Puis. Fait que c'est sûr qu'il est tombé dans ce jeu-là, puis je jouais beaucoup avec lui dans ce temps-là. Fait que c'est des jeux que j'ai mis du temps. Tu sais, j'ai acheté un jeu de char de culture underground. Là,
moi, à l'époque, j'étais à l'université, hein, à Polytechnique. J'avais pas un sou, donc. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Donc la version PC, c'est ça que tu voulais dire?
Oui, la version PC. C'est ce que je me suis trompé de Python, puis je voulais dire You are a PC. Mais...
Ben oui, une erreur fréquente.
C'est ça.
Mais c'est, bref, un des beaux exemples dans cette direction-là. Des exemples que j'ai trouvé qui étaient plus fuckés, mais beaucoup plus satisfaisants, Astro Boy en GBA.
Ça, je savais pas que c'était
C'est ça. Ben, y avait une version PC qui est sortie en même temps. Je pense qu'il était relié à un film. Pas une version PC, excuse, console, PlayStation 2. Qui était relié à un film qui était sorti, évidemment, dans la même période. Mais le jeu sur PlayStation 2 est complètement oubliable.
Ouais, j'ai jamais entendu parler.
Il n'y a rien à faire là.
Celui de Game Boy Advance, par exemple, j'ai entendu parler souvent dans les listes de Hidden Gems.
Et voilà. C'est un. Ben, il est fait par Treasure. Tu sais, tu tombes dans des. Des gars qui font des jeux fous, là, qui ont toujours fait des platformers 2D complètement cinglés. Puis là, tu la donnes à Astro Boy, fait que c'est sûr. Puis en plus, ils ont pris une direction complètement différente. Ça se trouve à être un hommage à toutes les franchises que le créateur d'Astro Boy a faites.
Okay.
Fait que les monstres, les personnages que tu rencontres, c'est tout l'univers de ce créateur-là.
Wow.
Fait que c'est ça. Fait que autant que ça veut pas dire grand-chose pour nous, parce qu'on connaît pas tant ces autres créations, pour les fans japonais, probablement plus, c'est énorme tout ce qu'il y a. Puis. À chaque fois que tu débarres un des personnages, en plus, ça te donne. C'est ce qui te fait monter de niveau, parce que Astro a cette empathie-là. C'est un de ses pouvoirs. Il grandit à travers les autres.
Astro. Pis,
fait qu'à chaque fois que tu rencontres un nouveau personnage, qui est un personnage de l'univers du créateur d'Astro, tu level up, puis tu augmentes tes skills. Puis c'est un super, super bon jeu. C'est vraiment trippant. Puis il est dur, mais il punit très peu, parce que tu recommences juste avant. T'sais. Fait que lui, il est à la limite du D-Make, parce qu'il a fait comme OK, fuck it, on fait notre propre jeu. Puis. Quel beau move.
Faire attention de ne pas confondre Astro avec Astar. Tu sais, le robot pubs qui peut remettre son bras, mais pas toi, jouer prudemment.
Le robot des amputés de guerre.
Ouais, c'est ça.
Tout brun, bizarre. Il avait l'air du bonhomme de Robax Assiette. Que tu peux les épingles dans le dos. Mais t'as-tu des exemples en particulier, toi, Dan? T'as-tu des jeux de GBA qui.
Ben, c'est ça que, moi, mon problème avec le GBA, ce qui fait que j'ai skippé tous ces beaux jeux-là, c'est que moi, c'était ma console pour jouer à des RPG. T'sais. Fait que j'ai découvert des RPG qui étaient des nouveaux RPG, j'ai rejoué à des RPG de Super NES, mais j'ai pas tant exploré ces aspects-là. Là.
Mais sans prendre la direction du D-Make, justement, dans les RPG qui étaient uniques au GBA, ça aussi, c'était pour revenir plus à notre point de départ, là, c'est-à-dire que.
L'amour du Game Boy Advance.
Ouais, puis le côté SNES qui est préservé.
Tu me dirais d'en parler beaucoup, je pourrais pas, parce que ça fait longtemps, mais Golden Sun, qui est comme la franchise peut-être la plus unique là, au Game Boy Advance, là, avec l'idée des petits bonhommes avec leurs éléments. C'était un beau RPG qui était complètement différent. Puis j'ai joué beaucoup au premier, j'ai acheté le deuxième, j'ai à peine joué. Et ça, c'était une belle franchise qui était comme pas juste un remake.
Puis je me rappelle quand on avait les annonces en TV pour ces jeux-là, là, c'était impressionnant parce que, tu sais, juste dans l'annonce en TV, ça a l'air d'un jeu de SNES, mais dans le système de combat avec les backgrounds qui pseudo 3D, il y avait beaucoup de. On poussait le Game Boy Advance loin, même si c'est un jeu qui est sorti tôt. C'était impressionnant. Visuellement, le frame rate, le nombre d'images par seconde tombait tout le temps. Là, ça souffrait un peu, mais c'était tellement beau quand même. Là.
Non, c'est ça. Non, sinon, j'ai beaucoup joué au Final Fantasy, tu sais, le 5 qui était la première fois, je pense, qu'il sortait en Amérique du Nord, là, je pense, là, sur la Game Boy Advance, tu sais, qui était écœurant avec les classes. Moi, ça me fait triper là, l'idée de choisir ses classes, puis de faire des mix de pouvoirs. Non, j'ai beaucoup. Ben, moi, j'ai beaucoup joué parce que c'est l'époque où je voyageais. Je faisais comme 3 lignes de métro pour me rendre à l'école. J'habitais la ligne verte pour ceux qui sont de Montréal. Fait qu'il fallait que je prenne la ligne verte, orange puis bleue pour me rendre à Polytechnique. Là. Des fois, c'était mauditement long. Tu sais. Mais ça tombe bien. Hein, un RPG, c'est mauditement long aussi. Tu sais. Fait que j'ai eu un Game Boy Advance à original. Puis quand j'ai vu sortir le SP, ma gueule a décroché. Là. Ben, la tienne aussi, je pense que quand t'as vu arriver ça. Là.
Moi, j'avais pas eu de console portable depuis le Game Boy original. Puis même à ça, tu sais, il a toujours été à la maison, le Game Boy. Puis, sérieux, j'avais. Quand Pokémon est sorti, je voulais embarquer. Puis j'ai dépoussiéré le vieux Game Boy. J'étais comme, on l'a tué encore.
J'avais eu de quelqu'un, genre, que ma mère connaissait, qui disait, hey, on a ça. Puis, tu sais, on aimait ça jouer. Fait qu'on avait un vieux Game Boy, même, genre Mario Land, là, tu sais.
Puis à toutes les fois que je jouais chez des amis, justement au cégep, qui avaient des Game Boy Advance, tu vois, il n'y a rien, là. D'avoir un écran de autant de couleurs, autant de détails, puis t'arrives rien à voir, jamais.
Non, parce que l'éclairage, ben, il n'était pas éclairé, là.
Fait c'est ça.
Fait que quand ils ont sorti le SP, j'ai comme, wow, OK. Fait que moi, j'ai fait un des bons moves de eBay, là, tu sais. J'ai vendu mon Game Boy Advance sur eBay, puis je pense que je l'ai vendu plus cher que ce que ça m'a coûté acheter le Game Boy Advance SP, là.
Un trade-up assez valable.
C'est merci aux deux d'autres qui ont parti un bid wars là, à la fin de mon enchère pour surenchérir comme beaucoup trop. Merci, merci.
Je me rappelle même avoir écouté une émission dédiée de Monsieur Net à l'époque sur le GBA SP. Nintendo voulait vraiment faire une grosse poussée, fait que c'était même présenté là. Ouais. Puis j'avais fini par l'acheter genre d'un gars qui revendait du stock, là, pas loin, ici, à Joliette, là, j'étais allé avec...
pas un vendeur sale.
Ouais, mais pire qu'un vendeur sale, tu sais, probablement genre un gars qui, à cette heure, vivrait sur Kijiji, là, à vendre des gogos, puis pas du gaming en particulier.
Non, 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 tout.
Je pense qu'il y avait une moto aussi à vendre, c'est là. Ça. Fait que j'avais ramassé genre ça, puis Link to the Past, en fait, Four Swords, là, Zelda, la version de Link to the Past sur le GBA. Puis, ah non, écoute, ça reste encore aujourd'hui une de mes consoles préférées.
Ben, moi aussi, juste le fait que tu l'applies, puis c'est tout petit, tu sais, ça rentre dans une poche, t'as pas quelque chose qui va aller scratcher ton écran, tu sais, c'est...
Puis c'est dur de penser à... Tu sais, tu peux mettre ça dans les mains de quelqu'un aujourd'hui, oui, fine, vas-y, OK, c'est vieux, etc., mais tu penses même pas à une époque avant des batteries rechargeables dans une console.
C'est vrai.
Tu sais, c'est-tu chiant, là, de swapper des batteries dans ta console? Tu sais, j'ai un Neo Geo Pocket Color, là, oui, c'est sorti avant, là, mais j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, faut que je mette des batteries dedans. Puis là, tu le laisses à la tablette, puis enlève-les pour pas qu'il coule.
Qu'il coule, ouais, c'est ça.
Mais bref, c'est ça. Fait que ça a tellement comme comblé ces belles époques-là de gaming.
Ouais. Puis encore maintenant, là, c'est la console, je pense, que je joue le plus.
C'est celle que je transporte le plus souvent, facilement. Même si le DS peut les lire, peut prendre un meilleur écran, le format convient mieux. Puis en fait, j'avais encore quelques titres sur ma liste, on mettrait pas une éternité dessus là, parce que je les connais moins, mais c'est des jeux qui sont bien classés. La version de Max Payne du GBA a une présentation isométrique, elle reprend toute l'histoire de Max Payne. Puis évidemment, il y a du bullet time, hein, parce que ça serait
parce que c'est Max Payne.
Mais le fait qu'elle reprenne l'histoire, qui est une histoire assez mature quand même. Ben, qui est pulpy, mettons, là, qui est un petit peu sombre en Game Boy Advance, sympathique. Mais vu le côté isométrique d'un jeu d'action shooter, j'avais jamais tant été porté vers, mais les critiques étaient bonnes. Ensuite, un de mes hidden gems, un autre jeu qui vaut presque rien puis qui vaut la peine, Medal of Honor Infiltrator. Lui, il a par contre été développé comme un jeu unique pour le GBA. C'est pas un port d'un des autres Medal of Honor.
C'est pas un remake, là, c'est vraiment juste... Mais il y a un lien avec la...
Ben, c'est ça, c'est une série qui est que des first-person shooters, mais soudainement, il y en a un qui l'est pas. Puis c'est un jeu... C'est un mix entre l'univers de Medal of Honor puis Commando. Genre, c'est un shooter vu de haut, qu'on avance écran par écran. Mais il y a vraiment une présentation quand même vraiment cool. Le look est un peu simplifié, mais t'as tous les effets sonores, t'as l'ambiance audio de Medal of Honor. Mais c'est clairement plus arcade comme shooter, mais il y a une atmosphère qui est vraiment cool. Mais
Commando, c'est pas jeune, ça,
non? Non, effectivement. Ou Ikari Warriors, ou ce que tu voudras.
Ah non, moi, Commando, je le connaissais. Là,
voilà, c'est... mais c'est ça, c'est vraiment un super, super bon jeu du GBA. Puis encore une fois, le monde n'a presque pas regardé parce que c'était Medal of Honor. Ouais, comme, c'est
un shooter.
Fatigue de Deuxième Guerre mondiale, en plus, rendu à cette époque-là.
Ouais, parce que là, c'était tout ça, là.
Mais super, super beau petit jeu. Lui, je pense que ça se qualifie particulièrement comme un remake. Les deux Klonoa, en fait, du Game Boy Advance. C'est sûr que c'est plus facile parce que c'est déjà un jeu 2D, mais c'était un jeu 2.5D sur les consoles. Mais là, tu tombes en plein de 2D, mais avec du super, super beau pixel art. Puis tu reprends toutes les mécaniques de jeu. Je préfère les versions GBA. Puis c'est peu dire parce que toutes les versions sont bonnes de la série Klonoa. Là. Super bon en GBA. Pas très cher non plus. J'ai vu des versions complètes en boîte pour genre 25-30$. Puis c'est comme... comment passer à côté d'un super bon jeu. Là. Mais c'est une série qui est plus niche. Puis il y a sur une plateforme qui est plus niche.
Qui boit, ben c'est ça.
Qui s'en sert pour des peanuts. Puis un que j'ai pas joué du tout, sa version GBA, mais qui semblerait qu'il reprend bien la franchise. Jet Grind Radio.
OK.
Mm. Ah, puis on pourrait rajouter en fait à cette liste-là, un petit peu dans le même ordre d'idée, Tony Hawk. Les Tony Hawk, eux autres aussi prennent une vue isométrique. On dirait que c'est le mot d'ordre des quelques derniers.
Ben, au même moment donné, tu sais.
Ouais, pour faire du 3D.
C'est ça.
Mais les Tony Hawk, là, Tony Hawk 2, le fameux Tony Hawk 2, la version GBA est écœurante. C'est aussi bon. T'as presque tous les tricks. Ton personnage est en 3D sur un environnement 2D. Fait que tu as quand même toutes les mêmes manœuvres, c'est les mêmes environnements. Ça, c'est un solide remake.
Ouais, ils ont réussi à faire une belle job aussi au niveau technique, là, pour réussir à faire.
Exact, parce que tu prends un jeu qui ne tient que sur la précision de son gameplay.
C'est sûr.
Tu le réduis à 4 boutons là, avec les shoulders, ce qui n'est pas si pire. Mais tu fais danser tes doigts sans manette, puis espérer avoir des high scores, puis grinder ci, grinder ça, rien de sexuel. Bon, en tout cas, peut-être.
Bon, peut-être. Mais tu sais, tout ce qui nous manque dans le fond, là, c'est que tu reprennes le ROM de Tony Hawk Pro Skater 2 au Game Boy Advance, tu remplaces le skater par une chèvre. Et tu nous fais un Goat Simulator D-Make Game Boy Advance.
C'est un callback à la semaine passée.
Eh ouais! Ça m'arrive de temps en temps, même. Je fais des. C'est le drop du jour.
Mais voilà. Fait que si jamais il y a des titres du GBA, sans que ce soit des D-Make, c'est sûr que là, c'est ce qui a nourri la discussion
d'aujourd'hui. Ben oui, mais sinon, il y a tellement de bons jeux.
Hidden Gem du GBA. partagez-les avec nous en privé, hein, comme ça on va pouvoir les acheter avant que le prix grimpe en cave parce que tout le monde en parle.
Tu sais, voilà, tout le monde nous écoute. Pis...
Ben voilà, tu sais, puis on le sait, là, on se met à parler d'un jeu, les prix sur eBay grimpent en cave.
Tu sais, j'ai parlé de Pokémon là, avant que Pokémon Go sorte, tous les jeux sont même montés.
L'encens Pokémon Go est rendu plus cher
à cause de toi. C'est toute ma faute.
Plus de Pokémon Go Plus dans les magasins.
Non, c'est à cause j'en ai parlé.
C'est fou la portée qu'on a.
Malheureusement, seulement que sur le podcast, pas dans ma vraie vie. Hein. Les élèves m'écoutent pas autant.
Bon, écoute, on fera un autre épisode de la causeuse que tu pourras te vider le cœur. Mais non, partagez-nous vos hidden gems.
Oui.
Il y a d'autres styles d'e-make. Pas obligé d'être sur GBA, parce que c'est toujours intéressant, des styles d'e-make. Puis, ou même des ports. C'est sûr qu'il y a eu des ports qui ont été intéressants. Tu sais, si on parle de Final Fantasy, justement, 1-2, tu sais, c'était vraiment comme des upgrades importants à la formule.
Ben oui.
Puis ça fait des super beaux, un super beau package, Dawn of Souls, qui s'appelait.
Ouais, ouais, oui, oui. Mais tu sais, c'est ça. Final Fantasy 1, là, sur le NES, là, c'est jouable, mais c'est lait, là.
Ouais, puis là, c'est ça. Il y a un obstacle assez important à rejouer à ça, là. Ça
mais le jeu comme tel est le fun à jouer, là. Fait que oui, les versions qu'ils ont faites, c'est comme un up-make, mettons. Ils ont repris pas mal le même jeu, mais ça joue beaucoup mieux. Pis...
Fait que bref, partagez-nous vos hidden gems, vos D-makes, vos remakes portables préférés. Puis on se revoit la semaine prochaine.
Hey, ouais!